Dialogue sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacret.
Amis auditeurs des Dialogues sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invitée aujourd'hui est une femme politique, notamment sénatrice de Paris pendant 7 ans, dont la vie, sous toutes ses dimensions, publiques, sociales, familiales ou encore spirituelles, a été bouleversée par une mise en accusation dans l'affaire du Mediator. Pendant 10 ans, en effet de 2013 à 2023, année de sa relaxe, elle a connu une forme de mort dont elle décrit les conséquences dévastatrices sur elle et son entourage, mais aussi une résurrection, gage d'une authentique croissance spirituelle. Marie-Thérèse Hermange, bonjour.
Bonjour.
Alors, je crois que c'est vraiment nécessaire de, à propos de ce texte saisissant donc que vous avez édité, qui s'intitule « Du Mediator au Mediator », de s'arrêter sur l'intensité de la souffrance que vous décrivez. Et je vais pour cela simplement évoquer la manière dont vous décrivez votre situation. Mise à mort, enterrée, maudite, clouée sur une croix, lépreuse, nauséabonde. Non mais on n'imagine pas deux secondes ce que vous avez vécu.
Oui, c'est exactement cela. Enterrée et maudite. Enterrée parce que lorsqu'on est mis en examen et condamné par le tribunal médiatique, tout s'isole autour de nous. Maudite aussi parce que considérée comme une taupe, puisque j'étais la taupe de laboratoire pharmaceutique, alors que j'avais fait voter un rapport à l'unanimité, qu'à la suite de ce rapport, j'avais fait voter un texte pour que les victimes soient indemnisées avant toute décision de justice, et que le laboratoire est une pénalité conséquente si les victimes n'indemnisaient pas les victimes à hauteur de 30%. Et donc, et c'est une mise à mort. Une mise à mort parce que la souffrance est telle que vous vous isolez. La souffrance est telle qu'elle peut vous conduire à être hospitalisé, ce qui m'est arrivé. La souffrance est telle qu'elle se traduit dans tout le corps par des problèmes tout à fait conséquents que j'ai pu avoir ainsi que mon entourage. Mais la souffrance aussi est telle que je me suis sentie abandonnée parce que je voyais un Dieu noir. Tout en scrutant les psaumes, en scrutant la Bible, et je disais, pourquoi Seigneur m'as-tu abandonné ? Pourquoi cette tempête ?
Alors, on va venir à votre lecture de cet événement, notamment sous l'angle spirituel, mais peut-être pour que les auditeurs puissent comprendre ce dont il est question, qu'est-ce qui vous a mis en accusation ? Quelles sont les circonstances qui ont fait que vous êtes retrouvé parmi les 12 prévenus dans cette affaire du Mediator ?
Eh bien, j'ai fait un rapport sur le Mediator, un rapport d'information pour le Sénat, et il y avait des éléments techniques que je ne comprenais pas, et j'ai fait appel à un médecin pour avoir des renseignements techniques sur la problématique strictement médicale. Puisque le président de la mission d'information voulait absolument faire une analyse de la molécule, ce qui n'était pas notre mission. Moi, je me suis soumise à cette problématique, mais il y avait des éléments que je ne comprenais pas. Donc j'ai fait appel à quelqu'un que je pensais totalement extérieur à cette problématique pour me donner des réponses techniques. Et un jour, il a téléphoné au directeur du laboratoire en lui disant « J'ai vu Marie-Thérèse Hermange, je lui ai fait changer des choses dans le rapport. » Et la personne, le directeur de Servier, était au téléphone, sur écoute. L'écoute a été donnée par un gendarme à une journaliste du Figaro. Et le Figaro a titré « Comment Servier a modifié le rapport du Sénat ?»
Voilà comment on se retrouve donc sur le banc des accusés. Marie-Thérèse Hermange, moi j'ai une question sur le plan de la relecture spirituelle. Vous dites, parce que votre livre c'est un dialogue avec le Très-Haut, avec le Divin, c'est vraiment magnifique. À un moment vous dites, là Seigneur, tu me donnes un événement de mort. Mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est le Seigneur qui vous le donne ? Enfin, comment, quelle place vous lui attribuez
dans ce qui vous arrive ? Exactement, il m'a pas donné, il m'a permis cet événement.
Ah oui. Il n'aurait pas pu l'empêcher non plus. Enfin, je veux dire, c'est...
Et je pense qu'il a, enfin, tous les événements nous sont permis finalement par le Seigneur, et ils sont permis pour nous faire sortir finalement de notre pauvreté ontologique, parce que finalement, faire sortir de toutes ces vanités. Et d'autre part, pour me faire grandir dans une foi adulte, parce que je me suis aperçue à cette occasion que je n'avais pas la foi, parce que finalement, je ne m'en demandais pas au Seigneur. J'avais entendu cette parole du livre d'Osée, « Je te conduis au désert », mais je n'avais pas entendu cette parole du livre d'Isaïe, « Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais ». Et j'ai compris aussi, à travers cet événement, ce que c'était que la croix et en quoi elle était glorieuse. Parce que le Seigneur m'a donné trois événements majeurs. D'une part, je devais être interrogée le 16 mars 2020 devant le tribunal correctionnel. C'était le confinement. J'ai donc été interrogée le 14 septembre, jour de la fête de la croix glorieuse. Deuxièmement, j'ai su que j'étais relaxée un lundi saint. Or, le lundi saint, que lit-on dans l'évangile ? L'évangile de Béthanie, Marie déverse sur les pieds du Christ un parfum, et d'un coup d'un seul, elle n'a plus l'odeur nauséabonde. Et le troisième événement qui m'a été donné, 10 jours après, dans le temps pascal, puisqu'il fallait que j'attende 10 jours, la lecture des Actes des Apôtres était la suivante. En parlant de Pierre et de Paul, ils les relâchèrent. J'ai eu trois événements majeurs de la part du Seigneur qui m'ont parlé à travers cette lecture.
Des signes,
et qui m'ont montré ce passage de la mort à la vie. Et que ce passage, nous sommes appelés à le faire aujourd'hui, et pas demain.
Vous écrivez, en s'abaissant un tant soit peu, nous grandissons dans notre capacité d'être. Ça, oui. C'est profond. Alors, c'est la suite de ce que vous venez de dire, d'amorcer, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En s'abaissant un tant soit peu, nous grandissons dans notre capacité d'être. Oui, c'est-à-dire que la nouvelle Marie-Thérèse Hermange, elle a une capacité d'être décuplée après cette épreuve ?
Un peu, parce que, si vous voulez, on est toujours considéré dans la vie comme une fonction. Et en plus, quand on a des fonctions publiques, et non pas dans notre capacité, effectivement, d'être à l'autre. Parce que, finalement, dans toute relation humaine, notre projet est toujours essentiel par rapport au projet de l'autre. Et là, j'ai dû m'abandonner dans quelque chose qui était infini, que je ne connaissais pas. Accepter d'être, entre parenthèses, tué par les autres. Accepter de mourir aussi parce qu'on me faisait mourir. Et voir que finalement, à ce moment-là, je peux crier et demander au Seigneur soit mes pieds, soit mes bras, soit ma bouche, pour pouvoir avancer et faire comme Zacharie, passer du silence à la parole, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, passer du médiateur au médiateur, à celui qui donne la vie.
C'est le moi qui a été détruit, au fond. Oui. Ce moi tyrannique, enfin, ce moi qui impose, comme vous venez très très bien de le dire, qu'on se voit d'abord soi avant de voir l'autre.
Enfin, ben oui, moi, il est présenté d'abord comme sénatrice de Paris, comme étant une fonction. Mmh. Voilà. Alors, c'est à renouveler tous les jours. Mmh. Moi, j'ai toujours été touchée par une parole de la Bible qui m'a bouleversée. Une petite parole de la Bible, de l'Épître aux Colossiens, c'est en lui qu'il faut marcher. Cette parole elle m'a toujours troublée, mais elle était extérieure à moi-même. Et cet événement m'a donné de passer à cette parole et de pouvoir aussi passer au pardon, c'est-à-dire blessé. Je le suis, mais je n'ai pas de haine.
Alors voilà, j'allais évidemment en venir là, ce pardon. Comment vous le vivez ? Est-ce que d'abord c'était indispensable pour votre résurrection ? Ou est-ce que c'est plus encore en vous oubliant vous-même parce que c'est votre chemin et qu'il est bon et juste de pardonner à ceux qui vous ont maltraité ?
On est à Radio Notre-Dame. Le cardinal Lustiger disait « La violence est un jeu de fous. Et pour cela, il faut une folie plus grande, le renversement de la logique de Caïn. Voilà le don, proposer l'excès d'amour face à l'excès de mal. Renverser la logique de Caïn. » C'est notre parcours, je dis en tant que chrétien, notre parcours quotidien. Parce que finalement, à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens ? Aimer nos ennemis dans la vie de tous les jours. Et ça a été un chemin effectivement très difficile. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai pu accéder à ce pardon.
Et toute velléité de contribuer à changer un peu le système, si je puis dire, c'est-à-dire notamment la présomption d'innocence, ce tribunal médiatique, tout ça, vous en détournez parce que vous pensez qu'on est pot de terre.
La présomption d'innocence, je considère qu'elle n'existe pas. Mais si vous voulez, moi j'ai été soutenue par le Sénat, j'ai été soutenue par l'Académie de médecine, je suis membre de l'Académie de médecine, et le Sénat m'a toujours demandé de me défendre sur une procédure de droit constitutionnel. Mais moi, j'ai refusé de me défendre sur une procédure de droit constitutionnel. J'ai refusé d'être considérée comme d'autres, comme une personne sacrée. Je n'avais pas à accepter d'être en garde à vue. Et il y a eu beaucoup d'erreurs dans ce procès. Mon téléphone a été regardé alors que sans l'autorisation du président du Sénat de l'époque, qui était Jean-Pierre Bel. On n'avait pas à venir chez nous comme on l'a fait, mais n'estimant pas une personne sacrée comme d'autres ont pu le faire quand ils étaient parlementaires. J'ai accepté de répondre à toutes les questions et de me laisser faire par toutes les procédures pour ne pas être considéré comme un politique qui se défend à partir de procédures.
Marie-Thérèse Hermange, marcher dans le Christ, ça veut dire qu'on peut dire que c'est le Christ qui a souffert en vous, que c'est le Christ qui pardonne avec vous et que c'est le Christ qui aime à travers vous.
Merci de le dire comme ça. Je suis très émue, presque aux larmes, que vous puissiez le dire comme ça et faire passer ce message à nos auditeurs. Moi, je suis un petit peu émue, si vous voulez, parce que c'est une affaire qui, pendant 10 ans, m'a complètement isolée. J'ai quitté le Sénat à 63 ans. À 73 ans, j'ai été relaxée. C'est 10 ans de vie enfouie.
Et vous êtes invité à une émission qui s'appelle Dialogue sur la mort, parce que véritablement, votre récit est celui d'une forme de mort.
Oui, c'est pour ça que j'ai voulu vous le faire connaître.
Oui,
Cette forme de mort permet aussi de passer à la vie.
Alors, la question que je vais vous poser, ce livre, c'est vous qui l'avez fait éditer, du médiateur au médiateur. Pour autant, est-ce que nos auditeurs peuvent se le procurer?
J'ai fait éditer à compte d'auteur.
Oui.
Donc, j'en ai encore quelques-uns chez moi.
Ils peuvent écrire à la radio et puis on me transmettra alors voilà. À ce moment-là s'il y a des demandes. Merci infiniment de votre témoignage, Marie-Thérèse Hermange.
Nous continuons nos programmes avec Halte spirituelle, avec Madeleine Vatel.
La ferveur d'un enseignant peut-il transformer sa façon de transmettre? Eh bien, pour le savoir, l'exemple de quelques grandes figures chrétiennes d'éducateurs est instructive. Ces fondateurs d'établissements religieux ont-ils encore quelque chose à nous dire sur ce qui fait grandir les enfants? Sans être copiés à l'identique, ils peuvent peut-être être une source d'inspiration. À tout de suite dans Halte spirituelle.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Sûrement plus d'un million d'années, et toujours en été. Y a plein d'enfants qui se roule sur la pelouse. Y a plein de chiens. Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. Sûrement plus d'un million.